Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur La Route. Et on est parti pour le 8e épisode de La Route. Je m'appelle Bastien et j'ai créé La Route pour qu'on découvre et on redécouvre tous ensemble ces histoires d'athlètes ou de courses qui sont rentrées dans la légende de la course à pied. On s'est déjà remémoré 7 histoires, d'Ishamel Guérouge en passant par Catherine Switzer ou le marathon de Barclay. Le podcast est jeune mais c'était un énorme kiff, alors merci à vous, toutes les personnes qui écoutent ces émissions au fur et à mesure des semaines. Et pour ce 8e épisode, intéressons-nous à un des maîtres de la course à pied. Vous êtes sur la route, c'est le 8e épisode, Haïlé Gebrselassie, n'oublie pas d'où tu viens. Août 1960, on est 13 ans avant la naissance d'Haïlé Gebrselassie et c'est pourtant là que tout commence. À Rome, les 17e JO vont bientôt se terminer et comme la tradition le veut, ils se termineront par le marathon. Et ce marathon sera historique pour tout le continent africain. Le marathonien Abebe Bikila va remporter la médaille d'or olympique sur le marathon. Et pas n'importe comment, pieds nus. C'est le premier athlète d'Afrique de l'Est qui remporte une médaille d'or olympique. Et c'est légendaire. Et surtout, Abebe vient d'envoyer un énorme message à toute une jeunesse. Oui, mes frères et sœurs d'Éthiopie, c'est autorisé, à vous aussi, de devenir champion olympique. 20 ans après, le petit Haïlé grandit avec cette histoire dans la tête et il se la raconte tous les matins en allant à l'école à pied. Son école est à 10 km de chez lui. L'histoire d'Haïlé, c'est finalement cette histoire qu'on connaît un peu tous. Pour aller à l'école, il y va en courant. Courir pour lui, c'est la vie. Il met toujours son cahier en dessous de son bras droit et quand il court, il fait attention à bien être sur la pointe des pieds pour ne pas se faire mal à cause du chemin qui est très cabossé. Tous les matins et tous les soirs, c'est donc 10 km aller et 10 km retour, 5 fois par semaine. C'est comme ça qu'Haïlé découvre le mot « courir ». Pour lui, c'est le geste le plus naturel qu'il soit. C'est son geste pour se déplacer. Marcher, connaît pas. Non, lui, c'est courir et rien d'autre. Et courir pour le petit Haïlé, c'est synonyme de pause et de joie. En effet, Haïlé travaille à l'école mais aussi au champ après les cours, où son père l'attend pour aller donner à boire aux ânes qui constituent son troupeau. Alors, quand à 12 ans, le père d'Haïlé quitte la terre, il décide que sa vie ne sera pas la même que celle de ses parents. Il veut tout faire pour avoir une vie plus facile et plus agréable. Il en a marre de souffrir de l'extrême pauvreté dans laquelle lui et toute sa famille se retrouvent. Et donc, à 12 ans, il décide de travailler quelque chose qu'il adore, la course à pied. Il court et il court encore, et grâce à son travail acharné et à un peu de chance, Haïlé va quitter sa région natale de Larsi, située au centre de l'Éthiopie, pour rejoindre Addis Abeba, la capitale du pays. En effet, les entraîneurs éthiopiens ont l'habitude depuis quelques temps maintenant, on est à la fin des années 80, de se déplacer en dehors de la capitale à la recherche des prochains champions olympiques. Le sac en 1960 de Bikila a ouvert une grande porte à l'athlétisme éthiopien. Pour Haïlé, c'est le docteur Kostré qui le repérera. Et ce sera le début d'une relation où ils vont tout gagner. Mais il y a un peu de boulot avant qu'Haïlé puisse aller courir contre d'autres personnes. En effet, comme Haïlé court depuis longtemps, il a pris de mauvaises habitudes, et notamment ce bras droit qui reste collé à son corps. Et oui, rappelez-vous, quand Haïlé court, c'est pour aller à l'école avec ses cahiers sous le bras. Ça l'empêche de bien courir et le docteur Kostré va mettre plusieurs mois à lui enlever cette mauvaise habitude. Mais Haïlé a tout d'un grand, et Kostré le sent bien. Et c'est en 1992 que la carrière d'Haïlé commence au niveau mondial. Ses premières courses au niveau mondial ne passent pas inaperçues. La première a lieu en 92 donc, à Séoul, pour les championnats du monde du 10 000 mètres junior. Haïlé a 19 ans. Ils ne sont plus que deux dans le dernier tour à pouvoir gagner. Et bien sûr, parmi les deux athlètes, on retrouve Haïlé. L'autre est Ndeti, l'athlète kényan. Et Ndeti lui met une grosse accélération dans les 150 derniers mètres pour remporter la victoire. Sauf qu'Haïlé, il a une pointe de vitesse comme rarement on en a vu à ce niveau. Il arrive à suivre le Kenyan pour le doubler juste avant la ligne. En doublant Ndeti, Haïlé le touche légèrement, et là, Ndeti, tel Mike Tyson, lui envoie un énorme coup de poing dans la nuque. Excellent. Haïlé est champion du monde junior du 10 000 mètres, et le sera aussi sur 5 000 mètres. L'autre course a lieu un an après, en 93, cette fois-ci au championnat du monde senior à Göteborg. Dans les derniers 400 mètres, Haïlé se retrouve seul avec Moses Tanui. Le petit Éthiopien se rapproche un peu trop de Tanui pour au final lui foutre un léger coup de pointe sur la chaussure gauche, ce qui a pour conséquence directe la perte de son outil de travail. Tanui se retrouve dans une finale mondiale avec une seule pompe dans le dernier 400 mètres. Dur. Mais pour autant, Tanui ne se laisse pas abattre et accélère. Tout le monde se demande si Haile va le laisser gagner ou non. Mais Haile, comme à son habitude, attend les 200 derniers mètres pour se mettre dans la foulée du Kenyan et pour ensuite le doubler. Tanui la mauvaise, et alors qu'Haile va le voir pour s'excuser de son geste malheureux, Tanui refuse de lui serrer la main. Voilà comment Haile Gebrselassie est découvert par le monde de l'athlée mondial à l'époque. Et finalement, ça nous fait presque oublier l'essentiel. Haile Gebrselassie est champion du monde du 10 000 mètres à 20 ans. Et toute la carrière d'Haile va être ça. Des victoires, et encore des victoires. Je ne veux pas que l'épisode dure trop longtemps, mais je pourrais en faire trois tellement la carrière d'Haile est complète. Alors j'ai choisi de me concentrer sur deux courses, qui ont fait la légende de l'Éthiopien, les 10 000 mètres des Jeux Olympiques de 1996 et de 2000. Et en 1996, alors qu'Haile a 23 ans maintenant, il arrive déjà en tant que double champion du monde sur la distance. Ce sont ses premiers JO, et pour tout athlète qui souhaite régner sur son sport, les JO sont le nirvana recherché. Et pour Haile, cette recherche du Graal aura lieu à Atlanta, aux US. Haile sera accompagné de son compère éthiopien Workou Bikilan, et en phase 2, les Marocains et Kenyans sont les deux nations étant potentiellement celles qui peuvent les emmerder à remporter l'or olympique, et notamment Paul Tergat, le géant et longiligne kenyan. Bon, on va pas se le cacher, le 10 000 mètres, c'est pas la course la plus télévisuelle qui existe. Les athlètes vont effectuer 25 tours de piste, et c'est sûr que 25 tours de piste de 400 mètres, en regardant la téloche, ça peut être un peu long. On a vite fait de commencer à checker son Insta ou écouter le nouveau son de Joker pour ensuite juste regarder la dernière ligne droite. Mais ça, c'est quand tu regardes la course de loin. Mais quand tu commences à t'y intéresser et à te rapprocher et essayer de comprendre la tactique du 10 000 mètres, je trouve que cette course ressemble énormément à une étape de vélo. Les premiers qui attaquent ne sont jamais les favoris, mais souvent les gars qui n'ont que très peu de chances de gagner la course. Le peloton les laisse partir et les mangera au petit trot, tel Ineos dans l'Alpe d'Huez. Et en 96, c'est ça. Ça commence par Baldini, le jeune Italien à l'époque qui gagnera, rappelez-vous, le marathon olympique quelques années après cette course. Dès les premiers mètres de la course, alors que le peloton courait à un rythme tranquille, 1 minute 10 le 400 mètres, soit à peu près 2 minutes 55 le kilomètre, l'athlète italien met une petite mine, ce qui a pour effet immédiat que le peloton n'est plus du tout compact et devient une ligne. Ça ne durera que quelques minutes, et Baldini se fera manger par le peloton qui finalement aura accéléré progressivement, ce qui ne représente pas un énorme effort pour ses athlètes. Surtout à ce stade de la course. Mais Baldini s'est testé et s'est montré. Et on repart pour plusieurs minutes avec un peloton qui court de manière compacte, mais ça accélère mine de rien. Ça ne se voit pas trop à la caméra, mais quand tu commences à voir quelques athlètes se faire lâcher et prendre rapidement une dizaine de mètres de retard sur le groupe de tête, tu sens que les gars devant ont mis les gaz. Et c'est les Kenyans, la nation la plus représentée de la course, qui prend le contrôle et organise cette accélération. Malin, et surtout se méfiant de la stratégie d'équipe que les Kenyans pourraient mettre en place, Haile se place en second, juste derrière l'homme de tête. Et il gère sa stratégie. On est déjà à 16 minutes de course, la première moitié est passée depuis quelques temps, et pour les athlètes de tête, l'effort commence maintenant. C'est maintenant qu'ils vont commencer à rigoler et à se foutre des banderilles chacun leur tour. Où des tours étaient courus entre 1 minute 10 et 1 minute 5, dès l'accélération, on est sur du 1 minute 4 à 1 minute 3. C'est que 1 ou 2 secondes, mais à ce rythme, ça compte énormément. Et après 2 minutes à ce rythme, ça pète de tous les côtés, pour au final ne retrouver que les 3 nations africaines favorites. Les 3 Kenyans, les 2 Marocains et Haile. Haile est toujours à la seconde place de ce groupe de tête et check très souvent où sont les autres coureurs, surtout Paul, la pioche, Tergat. Il reste 8 tours à faire, ça fait 18 minutes 40 qu'il court à 2,45 le kilomètre de moyenne. Et le pied d'Haile commence à l'emmerder. Il grimace, il semble avoir mal. On apprendra après la course qu'Haile s'est blessé au pied quelques semaines plus tôt. La blessure n'est pas totalement guérie et Haile s'est même posé la question s'il devait participer ou pas. Quand on regarde toutes ses autres courses, Haile n'est pas très expressif, ou alors plutôt positivement. Mais là, Haile grimace assez tôt dans la course à cause de cette blessure. Mais coûte que coûte, Haïlé suit toujours le train imprimé par les Kenyans, et ça va durer encore 4 minutes. Et à la 22e minute de la course, le grand Paul remonte le peloton pour foutre une mine. Et c'est parti. Paul accélère, et le seul qui peut le suivre, c'est Haïlé. Tous les autres Kenyans sautent, il n'y a que le Marocain Salah Issou qui les suit, mais de loin. Il a déjà pris quelques mètres de retard, ce qui lui fait perdre tout espoir de choper l'argent ou l'or. Ces deux médailles se joueront entre les deux athlètes voisins. Le longiligne kényan et le petit éthiopien, en quelques mètres, sont tout seuls. Et ils commencent même à foutre un tour à d'autres athlètes, dont Baldini, l'italien qui avait attaqué en début de course. Où on était sur des tours à 1 minute 03, on est sur du 1 minute là. Les deux sont relâchés et Issou essaye de les rejoindre. Mais Tergat gère ça plutôt bien. Dès que le Marocain se rapproche trop près d'eux, il en remet une petite pour finalement qu'ils ne les rejoignent jamais. On est juste avant le dernier tour. Haïlé, qui était dans la foulée de Paul Tergat, décide de commencer à bouger pour tenter sa chance vers l'or olympique.
C'est encore un petit peu rapproché, il reste maintenant 450 mètres. Il y a le rictus sur le visage de Ghebreselassie. Mais tant qu'il reste dans la foulée de Paul Tergat, et regardez, il attaque et il se relâche en plus. Il a gagné, c'est sûr, il le sait. Quelle impression quand il porte son attaque, ses muscles se sont relâchés. Et il sait qu'il peut y aller maintenant. Tergat essaye de résister, ça n'est pas fini, un long tour encore à parcourir. Tergat est toujours là, à 3 mètres simplement d'Haïlé Ghebreselassie, qui force encore l'allure. Il regarde derrière lui sur l'écran géant si Paul Tergat arrive à suivre ou non. L'écart se creuse. Dans le dernier tour, Haïlé Ghebreselassie est en train d'aller chercher la médaille d'or.
Ce sera dur pour Tergat de revenir. Et il essaye pourtant. Mais quand on connaît la pointe de vitesse d'Haïlé Ghebreselassie, on peut lui faire confiance. Paul Tergat qui essaye, mais ça sera difficile. Regardez la fin de course.
La dernière ligne droite est de Haïlé Ghebreselassie. Paul Tergat revient, mais c'est gagné pour l'Éthiopien. Ghebreselassie, champion olympique du 10 000 mètres devant Paul Tergat.
Quel temps, quel chrono, 27 minutes et 7 secondes. Record olympique explose.
Haïlé remportera la course en 27 minutes et 7 secondes, ce qui constitue le record olympique de l'époque. Alors même si un grand champion nous a dit qu'on parlait pas d'âge, Haïlé a 23 ans et est déjà double champion du monde du 10 000 mètres et champion olympique du 10 000 mètres. Alors qu'est-ce qui à ce niveau fait la différence entre un Paul Tergat et un Haïlé Ghebreselassie? Premièrement, mais ces deux-là sont complètement d'accord à ce sujet, du travail et encore du travail. Ensuite, de la discipline et de la rigueur. Haïlé, il ne craque pas quand ses potes lui demandent s'il veut aller boire juste un verre. Et enfin, le secret d'Haïlé, passer au-delà de la souffrance. Là où les très bons coureurs arrêtent de se faire mal, lui continue et dit qu'il est prêt à mourir, à se sacrifier pour atteindre ses objectifs. C'est le frère Colm, la personne qui détecte et entraîne tous les champions kényans, qui dit que la différence entre les champions et les énormes champions, c'est leur capacité à repousser la douleur, à jouer avec. Là où le corps dit d'arrêter, ou la tête dit d'arrêter, l'athlète, lui, continue encore plus fort et plus vite pour atteindre ses objectifs. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis tranquille dans mon canapé en train de dire qu'il faut se faire mal jusqu'à en crever. Alors d'où ça vient? Pour Haïlé, c'est assez clair, c'est son milieu social. Il est issu d'une famille très pauvre et Haïlé sait ce que c'est de ne pas avoir à bouffer le soir. La course à pied était pour lui le seul moyen de s'en sortir, alors quand il doit accélérer pour gagner, quand il doit tout donner pour remporter la victoire, ça lui vient des tripes. Il sait que rien n'est jamais acquis, que les défaites et l'oubli peuvent arriver très vite. Et avec, la perte des cash prizes et une vie beaucoup plus difficile. Et quand on le voit accélérer dans les dernières lignes droites des 10 000 mètres qu'il a couru, où il part dans les 200 derniers mètres, soit à la suite d'un autre coureur, soit tout seul, il ne ralentit pas une seconde. Et quand pour les autres ça commence à être dur, lui il garde le même rythme, voire il accélère et remporte la course. Et c'est grâce à tout ce qu'il a acquis quand il était plus jeune qu'Haïlé est un des plus grands. Et Haïlé arrive en 2000, en patron, mais il y en a un qui veut le détrôner, son rival de toujours, Paul Tergat. Stade olympique de Sydney. Les 10 000 mètres ont toujours lieu le soir et Haïlé est tout heureux d'être là. La caméra reste sur lui plusieurs secondes et on le voit se marrer à pleines dents. Il est en train de faire coucou au public, c'est vraiment un moment détente. Il sautille sur place, presque en train de danser. ça jure complètement avec les autres athlètes qui, eux, sont très, très sérieux. Mais quand Starter est prêt à péter, le visage de l'Éthiopien se transforme pour devenir impénétrable. Les premiers tours de piste sont gérés par le Burundais Nizigama, qui imprime un rythme assez fort pour un début de course. Haile, comme à son habitude, prend place juste derrière l'homme de tête et est prêt à rester au chaud pendant toute la course. C'est parti vite, tous les athlètes sont en file indienne et ils passent au premier kilomètre en 2 minutes 39. C'est hyper rapide pour vous qui écoutez, mais même pour des athlètes de ce niveau, commencer par un kilomètre à cette allure, ça pique un peu. Nizigama veut asphyxier tout le monde. Il joue ses cartes car si un leader est en méforme, il pourrait pourquoi pas obtenir une place inespérée pour lui. Résultat de ce départ très rapide, au bout de 3 minutes de course, il a déjà un groupe Eto qui se forme et qui ne reverra plus jamais le groupe de tête. On passe aux 2000 mètres en 5 minutes 23. Haile est toujours tranquillement au chaud en seconde position. Kilomètre 3, 8 minutes 08, et toujours le Burundais, Nizigama, qui gère la course jusqu'à cette ligne des 3 km donc. Il s'écarte pour laisser la place au Kenyan John Korir qui prend la tête et accélère à nouveau le rythme. Haile est toujours en 2, suivi maintenant de son grand ami et rival, Paul Tergat. Au 4e kilomètre, on passe en 10 minutes 55. Le rythme ralentit petit à petit, le Kenyan en tête pioche un peu et automatiquement le peloton devient plus compact. Et ça plaît pas à Nizigama qui, comme au début de la course, réaccélère juste avant les 5 km. La moitié de la course est courue en 13 minutes 45, soit 2 minutes 45 le kilomètre en moyenne. Et pendant les deux prochains kilomètres, la course va être rythmée par diverses attaques des outsiders. Mais les favoris ne bougent pas, toujours aux mêmes places, concentrés. Ces variations de rythme font par contre beaucoup plus mal aux autres coureurs et ça écrème le peloton par l'arrière. On arrive au 7e kilomètre, 19 minutes 24. Et là, les choses sérieuses commencent. Paul Tergat prend les rênes de la course, ça rigole plus. Ça commence à jouer des coudes dans les lignes droites. Et oui, les athlètes veulent être le mieux placés sur la piste pour courir le moins de distance possible. Où les coureurs étaient entre 65 et 70 secondes le 400 mètres, on est sur un rythme à 63 secondes maintenant. Dans le peloton d'une dizaine de coureurs avant l'accélération, il n'y en a maintenant plus que 6 au 20e tour. 3 Kenyans, 2 Éthiopiens et 1 Marocain. Haile est toujours second, ça bouge pas. Et on le voit jeter des petits coups d'œil au-dessus de son épaule et sur l'écran géant. Il regarde où sont les autres et s'ils paraissent bien. Lui, ça a l'air d'aller. À nouveau, le collègue Kenyan de Tergat prend la tête de la course et il aide le champion Kenyan à essayer de lâcher les Éthiopiens. Il reste 3 tours. Ça accélère à nouveau. On a perdu une unité dans le groupe de tête. Ils ne sont plus que 5, les 3 Kenyans et les 2 Éthiopiens. Le 9e kilomètre est passé en 24 minutes 44. Il reste 2 tours, ça commence à grimacer. Haile est toujours second, Paul Tergat le suit comme son ombre. Il commence à prendre un tour au dernier. Ça continue sur un rythme de plus en plus rapide. Et petit à petit, Mesgebou, le compère éthiopien d'Haile, qui a eu pour habitude de suivre Tergat toute la course, commence à accélérer pour doubler le Kenyan. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se place sur le couloir 2, ce qui fait qu'il parcourt un peu plus de distance que les autres. Il est maintenant juste devant Tergat, à sa droite. Mais oui, les Éthiopiens veulent empêcher Tergat d'attaquer. En faisant cette manœuvre, Tergat est bloqué devant par Haile et à droite par Mesgebou. C'est pour le moment impossible pour le grand Kenyan de se décaler. Les Éthiopiens savent que Paul va accélérer sur une longue distance, car c'est lui le meilleur au monde à ce petit jeu. Mais Haile veut limiter au maximum la distance sur laquelle il va attaquer. Et dans l'avant-dernier virage de la course, alors que Paul est complètement enfermé, il doit freiner, voit une ouverture sur sa droite, saute sur sa jambe droite et s'en va à toute berzingue à la recherche de sa première médaille olympique. Se passe alors une des plus belles lignes droites qui n'ait jamais existé. The two old rivals battling once again in Atlanta. Gebrselassie took the gold, Tergat the silver. Right now, Tergat has the advantage as they turn for home. It's a sprint to the finish after 10,000 meters. Paul Tergat, Haile Gebrselassie. Tergat still has the advantage. Gebrselassie trying to make one desperate last move. Gebrselassie up on the outside. Here they come to the finish. Gebrselassie leads and wins. Haile devient double champion olympique en terminant juste devant Paul Tergat. Il boucle ce 10 000 mètres en 27 minutes 18, soit 22 km/h de moyenne. Ailey est imbattable, c'est le meilleur, et il vient de battre Paul Tergat, mais finalement, tout l'athlétisme kényan avec un coup de maître. Sa victoire à Sydney sera sa dernière, entre guillemets, grande victoire. Ailey se fait plus vieux, surtout qu'il serait même plus âgé que son âge officiel. Mais Ailey a toujours été très lucide à ce sujet. Il sait que sa carrière prendra fin un jour et qu'il faudra laisser la place aux jeunes. Son seul but est finalement le suivant, faire briller aux yeux du monde son pays, l'Éthiopie. Et justement, en 2003, quand Ailey ne gagne pas, c'est toute l'Éthiopie qui gagne. Alors que le Kenya avait réussi à reprendre du poil de la bête après les JO de 2000, Ailey veut mettre tout le monde d'accord lors des championnats du monde à Paris. Et avec ses collègues, Séléchine et un certain jeune du doux nom de Kenenisa Bekele, ils vont mettre tout le monde d'accord. C'est une course de vélo qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils font des relais. Un coup Kenenisa est en tête, un coup c'est Ailey, un coup Séléchine. Et à tous les trois, ils vont foutre la honte aux Kenyans. Kenenisa, qui gagnera cette course, finira avec 30 secondes d'avance sur le premier Kenyan, John Korir, qui finira quatrième. Ailey jubile. Lui, il finira second de la course, mais l'important est ailleurs. Ils ont montré au monde entier qui était la meilleure nation de coureurs au monde. Et finalement, c'est ce qu'Ailey veut dire au monde. Que l'Éthiopie, ce n'est pas juste des guerres, ce n'est pas juste de la pauvreté ou de la famine. Non, mon pote. L'Éthiopie, c'est une nation de champions. Ailey ira ensuite sur marathon, mais peut-être un peu trop tard, c'est ce qu'il se dit. Néanmoins, il gagnera beaucoup de marathons avec des chronos incroyables. On retient notamment ses 4 victoires d'affilée à Berlin, où sur 2 éditions d'entre elles, celles de 2008 et 2009, Ailey bat le record du monde avec une marque notamment de 2 heures, 3 minutes et 59 secondes. Il y a toujours une question que je me pose quand je fais tous ces épisodes. Finalement, pourquoi ces athlètes courent ? Et plus particulièrement aujourd'hui, pourquoi Ailey court ? Ailey a toujours voulu, depuis qu'il est très jeune, influencer le monde dans le but de l'améliorer. C'est son leitmotiv et c'est pour ça qu'il se lève tôt, très tôt, le matin. Et souvent, quand on veut influencer, on essaye de le faire avec quelque chose que l'on maîtrise. Et pour Ailey, c'est la course à pied. Bien sûr, au début de sa carrière, il ne pensait pas à ça. Lui, son rêve, c'était d'être, pourquoi pas, une fois champion du monde, ou alors s'il était vraiment bon, champion olympique. Bon. Il a été 4 fois champion du monde du 10 000 mètres et 2 fois champion olympique de la distance, et il a quand même battu 27 records du monde, soit. Mais grâce à ses victoires, Ailey a compris la puissance médiatique qu'elle représentait. Il les voyait d'ailleurs comme des symboles, et il a souhaité s'en servir pour améliorer les conditions de son pays. Et tout l'argent qu'il gagne, il a toujours été réinvesti dans son pays. Il a construit des immeubles, a créé sa propre concession de voitures, ses hôtels, ses salles de sport. Ailey rêve d'une Éthiopie à l'image de pays comme la France ou l'Allemagne. Il ne veut plus que les Éthiopiens soient pauvres et galèrent au quotidien. Ailey a couru pendant 20 ans sous les couleurs de son pays pour essayer d'améliorer les conditions de vie de son peuple. Depuis plusieurs années maintenant, Ailey court toujours et il s'entraîne pour le prochain objectif de sa vie, devenir président de la République éthiopienne. Merci à tous d'avoir écouté ce 8e épisode de La Route. Si vous aimez La Route et que vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous adorez La Route, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux sociaux. En partageant ce podcast, comme je dis toujours, vous permettez à d'autres personnes de découvrir ces histoires d'athlètes. Et ils sont beaucoup plus aujourd'hui, alors merci infiniment pour eux. On est début août. Et le prochain épisode ne sortira pas dans 15 jours comme normalement, mais début septembre. D'ici là, passez de bonnes vacances et moi je reviens à la rentrée avec du lourd, croyez-moi. À dans un mois les amis, ciao.